Monaco s'engage en faveur de la transition énergétique. Vous aussi, vous souhaitez agir au quotidien pour la planète ? Découvrons l'action d'un signataire du pacte pour la transition énergétique.
Une rencontre avec Benoît de Sévelinge.
En tant que directeur du CHPG, quel a été le facteur déclenchant qui vous a incité à signer le pacte pour la transition énergétique ?
Alors, au CHPG, la politique de développement durable, elle a été initiée en 2010 avec une idée principale qui est primum non nocere. C'est quelque chose qui est très connu dans la santé, c'est d'abord ne pas nuire et ensuite soigner. Donc nous nous sommes dit que le nouvel hôpital étant en projet déjà à l'époque, les principaux facteurs de pollution ou mauvais pour l'environnement venaient du bâtiment et que là-dessus on ne pourrait pas y faire grand-chose. En revanche, dans nos pratiques et nos organisations, nous étions persuadés de pouvoir nous améliorer. Donc en 2010, on a lancé la politique de développement durable avec d'abord une action sur les déchets et puis on a sollicité les agents eux-mêmes pour donner des idées puisque c'est eux qui sont sur le terrain. Quelles sont vos idées pour améliorer les choses ? Naturellement, quand le pacte pour la transition énergétique a été promu par la MTE, on a d'ailleurs été une des toutes premières entités à nous manifester puisqu'on l'a signé dès avril 2018. Et la même année, on a convié la MTE à faire signer le pacte directement à nos agents pour que l'entité s'engage, mais que les individuels s'engagent également. Et ce jour-là, on a 131 agents qui l'ont signé d'ailleurs.
Et alors, quels sont les changements que vous avez apportés, mais dans les grandes lignes au départ, lors de cette signature en avril 2018 ?
Alors on a travaillé sur les trois axes principaux de la MTE, mobilité, énergie et déchets. Donc sur la mobilité, ce qu'on avait déjà mis en place ou ce qu'on venait de mettre en place, c'était une navette interurbaine qui permet aux gens qui veulent aller voir leur famille ou leurs proches au Cap Fleury ou à la Quiétudine ou au centre René III de ne pas prendre leur propre véhicule. Donc on a une navette qui tourne sur la demande dans tout Monaco. Au CHPG, on s'est dit comment promouvoir les transports en commun. Alors, d'une part, pour nos agents, donc on a mis en place une navette qui va jusqu'à la gare, qui les amène et qui les ramène de la gare pour les inciter à prendre le train. On a également mis en place une prime pour ceux qui ont un abonnement de transport en commun, donc dès 2016 ou 2017 de mémoire. On prend en charge de 40 à 60% de leurs abonnements, y compris s'il y en a plusieurs. C'est-à-dire que s'ils prennent le bus et le train, on prend en charge sur les deux. Sur les patients, on a réfléchi à comment les inciter à venir en transport en commun de la même manière. Et donc, on a mis en place les voiturettes électriques. Pourquoi ? Parce que très souvent, on avait des gens qui venaient en voiture, non pas parce qu'ils ne pouvaient pas prendre le bus, mais parce qu'ils avaient besoin de se faire accompagner par un proche après dans leur transfert dans l'établissement. Donc, la voiturette électrique permet de pallier ce manque. On a été un petit peu plus loin que ça en changeant tous nos véhicules, donc les véhicules CHPG, par des véhicules électriques, donc petit à petit, au fur et à mesure qu'on les change, on a le Jumpy, on a deux Twizy, une Zoé, 10 scooters électriques, donc voilà, au fur et à mesure qu'on les change, on essaye d'aller vers des véhicules plus propres. Et enfin, l'an dernier, on a mis en place une prime pour les agents qui viennent à l'hôpital, soit en véhicule électrique, soit en vélo. Donc ceux qui viennent en vélo, on leur a aménagé des stationnements qui sont un peu sécurisés, un peu à l'abri. On leur a fait des gilets jaunes, évidemment, sécurité avant tout. Et puis, on leur donne une prime annuelle pour les remercier de faire cet effort. Voilà. Sur la mobilité, on a fait beaucoup de choses, puisque c'est quand même 2700 agents, 80 000 patients. Et donc, en fait, en termes de transport et de mobilité, on a une nuisance, une capacité de nuisance qui est très importante. Donc il fallait la limiter, primum non nocere.
Est-ce qu'on peut parler aussi de modifications au niveau de la gestion des déchets aussi ?
Tout à fait. Alors sur les déchets, on a beaucoup travaillé pour limiter d'abord la production de déchets, ce qui paraît être la première des choses. On a commencé en 2013 à installer des fontaines à eau dans l'établissement et à fournir aux agents donc, des bouteilles qui sont faites dans des matières qui ne sont pas nocives et qui peuvent être réutilisées. Donc entre 2013 et aujourd'hui, on a équipé 80% des services environ. Et cette année, on lance également la fourniture de fontaines pour les patients qui actuellement ont des bouteilles d'eau en plastique et pour limiter donc la production de ces déchets plastiques. On a travaillé beaucoup sur l'usage unique également, que ce soit dans les tenues de travail ou que ce soit dans les consommables. Il faut savoir que dans un hôpital, on utilise énormément d'usage unique pour des questions d'hygiène. Néanmoins, on sait qu'on peut faire des efforts sur un certain nombre de choses et donc on le fait. Et enfin, on a beaucoup travaillé sur le tri des déchets, puisqu'on a tout type de déchets, notamment des déchets dangereux ou particulièrement nocifs. Donc aujourd'hui, on a une quinzaine de filières de tri. On lance là dans une semaine les mégots, parce que en fait, il y a des choses qui sont très très spécialisées, donc les déchets d'activité de soins à risque infectieux, donc qui ont une filière qui est spécifique aux hôpitaux, mais on a aussi tous les déchets qu'ont les autres, les néons, les piles, effectivement les mégots, ça fait partie des choses qu'on essaye également de rentrer dans des filières de valorisation d'une part ou de tri d'autre part.
Les mégots, j'ai vu que vous avez mis d'ailleurs un petit poster en disant « Attention, la mer commence ici à côté des bouches d'égout ».
Tout à fait. Jusque-là, on devait déboucher les bouches d'égout 2 à 3 fois par an parce qu'il y avait des mégots. Pourtant, l'établissement est non-fumeur, il y a des zones fumeurs qui sont bien identifiées. Dans ces zones fumeurs, il y a de très nombreux cendriers, mais on n'arrivait pas à convaincre les gens de les utiliser. Et on a eu cette idée-là, à chaque bouche d'égout, à son logo avec une petite tortue que le musée océanographique nous a inspirée, qui dit « La mer commence ici », pour faire comprendre aux gens que lorsqu'ils jettent leur mégot dans la plaque d'égout, ben, c'est pas propre en fait. Et que ce mégot-là, il finira pas dans une grille de tri comme beaucoup le pensent, mais il finira directement dans la mer où ils vont se baigner le week-end avec leurs enfants. Et depuis, nous n'avons pas eu besoin de déboucher nos bouches d'égout. Donc il semble que la pédagogie soit un bon outil.
Parlez-moi un peu de la consommation énergétique. Est-ce que vous avez réussi à l'optimiser ?
On y travaille. On y travaille. C'est pour nous la chose la plus difficile, parce que cette consommation énergétique, elle dépend éminemment de la structure des bâtiments et, en ce qui nous concerne, de leur vétusté. Donc à chaque fois qu'on a une opération de rénovation de travaux, on travaille avec des LED, on essaye de réduire la consommation énergétique de nos équipements en général. On adhère à l'ensemble des programmes que lance la SMEG pour des énergies plus propres et à leurs conseils pour essayer de limiter tout ça. Mais je reconnais qu'avant le nouvel hôpital, on sera loin d'être exemplaire en la matière.
Est-ce qu'il y a d'autres prises de conscience écologiques, d'autres initiatives ? Je pense par exemple au lieu où nous nous trouvons.
Le potager bio. Effectivement, en termes de restauration, donc il faut savoir que le CHPG a une cuisine sur site, ainsi que l'ensemble de ses structures, donc les 2 maisons de retraite Cap Fleury, Aquiétudine et Crèche, et une équipe de restauration qui est extrêmement dynamique sur le sujet. Donc on travaille beaucoup sur nos actions. Donc ce potager-là, il permet d'alimenter la crèche, la cuisine de la crèche, pour permettre à nos enfants d'avoir une alimentation bio. Au-delà, on propose depuis quelques années déjà des petits déjeuners 100% bio. Et l'année dernière, notre responsable restauration, Madame Meschling, a travaillé avec les agriculteurs qui vendent leur production aux mines à Nice. Et une très très grande partie aujourd'hui de notre production alimentaire est issue des mines. Donc il y a le bio d'une part, mais nous on travaille aussi beaucoup sur le local. Ça nous intéresse énormément parce que je préfère acheter local que du bio qui vient de l'Europe de l'Est, par exemple, enfin de très loin en général. Elle fait également un gros travail sur l'usage unique. Hein, jusqu'à l'épisode Covid, il n'y en avait plus en restauration. On travaille également à la valorisation des déchets alimentaires. Donc pour vous donner un exemple, les fruits qui sont mis à disposition au self, lorsqu'ils ne sont pas pris, sont transformés en compote ou en confiture qui sont après amenés au centre Régnier 3 et qui servent pour les repas des personnes âgées. Donc on essaye vraiment systématiquement de limiter le gaspillage alimentaire. On a également un choix important de mets par rapport à d'autres hôpitaux, ce qui permet aux patients de choisir leur repas. Et à partir du moment où on a choisi son repas, on a plus tendance à le manger volontiers. On a travaillé également au self, on a réduit la taille des assiettes en disant aux gens, venez vous resservir, ça c'est à volonté. Par contre, on vous sert moins. Et là, par exemple, on va mettre des choses alors, qui ont l'air un peu subtiles, je dirais, mais qui vont servir. On a travaillé sur le gaspillage de pain. Donc chaque soir, on prenait en photo tout le pain qui avait été gaspillé et on mettait ça en photo devant les présentoirs. Et puis on va le mettre à un prix modique, puisque actuellement il est gratuit, pour inciter les gens à ne prendre que le nombre de morceaux de pain qu'ils souhaitent. Donc voilà, c'est des petites actions, mais c'est de la sensibilisation, de la pédagogie. Et en fait, on a un personnel qui a l'habitude de prendre soin des gens et qui prend très volontiers soin de la planète.
Vous avez énormément d'initiatives, mais est-ce que vous auriez besoin d'assistance de la part de la mission pour la transition énergétique pour aller plus loin ou pour vous sensibiliser vous-même ?
Bien sûr. Alors, il y a 2 choses. D'abord, l'expertise de la MTE. On prétend absolument pas être aussi compétent qu'eux en la matière. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est très utile. Parfois, on lance des actions en pensant que c'est bénéfique. Et puis, au final, le coût global est plus important que le bénéfice. Et puis, la MTE entretient un réseau qui est très intéressant, puisque ça nous permet de nous donner des idées. Donc, je vous parlais du recyclage des mégots. C'est la single boy qui l'a présentée lors d'une conférence de la MTE. Et donc, on va aller faire la même chose. Je pense qu'il est très important de pouvoir s'inspirer de l'expérience des autres. À terme, ça pourrait aussi nous permettre d'avoir des marchés communs et des tarifs communs de prestataires et de mutualiser un certain nombre de choses plutôt que de travailler chacun dans son coin, ce qui a assez peu d'intérêt. Donc, le dynamisme de la mission pour la transition énergétique est aussi un facteur de motivation pour nous tous.
Alors, en tant que directeur du centre hospitalier, est-ce que vous avez vu des freins à ce changement écologique en interne ou de la part de votre domaine d'activité ?
Alors, en ce qui nous concerne, c'est d'abord la vétusté des bâtiments dont je vous ai parlé. Mais c'est vrai que la pandémie récente de coronavirus nous a ramenés vers de l'usage unique dont on avait vraiment réussi à se débarrasser. Ça engendre une frustration très importante, autant dans les services de soins, par les agents qui s'étaient habitués à consommer moins, que dans des services qui sont communs à tous. Hein. Je prendrai l'exemple du self, où on est repassé au sachet de moutarde. Et c'est vrai que c'est assez frustrant de se dire que tous les efforts qui ont été faits jusque-là sont battus en brèche. Et de revoir nos quantités de déchets augmenter du fait de l'usage unique.
Maintenant, à qui pourriez-vous recommander de signer le pacte pour la transition énergétique ?
À toutes les entreprises et sociétés monégasques et toutes les institutions, parce que vraiment, ce dynamisme qui est insufflé par la mission pour la transition énergétique est un gage de réussite collective. Et puis, c'est très agréable, en fait. C'est très, très agréable. Ce sont des sujets qui sont fédérateurs. Donc, au CHPG, nous avons signé le pacte national pour la transition énergétique. Et vous ?
Parce que la transition énergétique et la protection de notre planète sont l'affaire de tous, vous venez de découvrir des clés pour agir au quotidien. Présenté par la mission pour la transition énergétique du gouvernement princier.